femme chrétienne ou femme mondaine. Alors, comment essayer d'aborder ce sujet délicat ? Bien, il me semble que, au cours d'une retraite, on est là avant tout pour se rapprocher de notre Seigneur. On goûte la beauté d'une vie passée près du bon Dieu, en partie au moins. Donc, il s'agit maintenant de voir comment prolonger cette vie d'intimité une fois que vous serez rentré chez vous. Donc, il ne s'agit pas de transformer votre maison en Carmel. C'est pas ce qu'on vous demande. Il ne s'agit pas d'imiter toute Marie-Madeleine et de quitter le monde. Il s'agit de découvrir comment prolonger ce contact établi ici avec notre Seigneur et comment empêcher, comment éviter tout ce qui pourrait empêcher son rayonnement. Donc ici, il faut se rappeler cette phrase de notre Seigneur qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres. » Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il aimera l'un et haïra l'autre, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre. Notre Seigneur nous a dit également qu'il vomirait les tièdes. Donc on voit que notre Seigneur, vous voyez, veut que nous soyons catholiques à part entière, et non pas uniquement catholiques du dimanche. Donc il s'agit d'être catholique du matin au soir, 7 jours sur 7. Donc il s'agit, si on veut être catholique du matin au soir, il s'agit d'être cohérent, qu'il y ait une cohérence entre notre manière de penser et notre manière d'agir. Saint Thomas explique bien qu'il est plus facile d'avoir de bonnes idées que de les mettre en pratique. Parce que l'homme est plus vicié, plus corrompu dans sa volonté que dans son intelligence. Alors dans la mesure où le monde actuel est un monde qui n'est plus du tout catholique, eh bien, c'est pas évident pour vous qui êtes dans le monde de rester pleinement catholique et de ne pas subir les influences négatives du monde. Alors, si on veut éviter cette certaine tentation dans le monde, eh bien, il faut nous rappeler tout d'abord le premier commandement de Dieu, qui nous invite à aimer Dieu par-dessus tout. Et comme je vous le disais déjà dans les conférences précédentes, l'amour renferme un caractère exclusif. Un amour plein, un amour fort, un amour sans réserve et d'une certaine manière un amour jaloux. Dieu lui-même se présente comme étant un Dieu jaloux dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament. Alors, encore une fois, ce n'est pas que Dieu refuserait que nous aimions les autres créatures. On doit aimer son prochain comme nous-mêmes. Mais il faut l'aimer dans l'ordre. Donc je dois aimer Dieu par-dessus tout. Alors quel est le critère qui va me montrer que j'aime vraiment Dieu ? Eh bien, si je suis prêt à accomplir sa volonté. L'amour conduit à l'identité des vouloirs. Si j'aime quelqu'un, eh bien je me plie à sa volonté. Donc aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, c'est là le critère objectif de mon amour de Dieu. Ce n'est pas ce que je sens au cœur. C'est cette identité des vouloirs. Donc si vraiment on aime Dieu de tout son cœur, eh bien, petit à petit, il faut du temps, certes, et c'est pour ça que c'est un peu délicat de vous donner des consignes, et c'est l'intérêt pour vous de voir un prêtre en particulier, parce que les consignes qu'on vous donne sont nécessairement des consignes générales. Hein. La plus jeune d'entre vous a 18 ans et la doyenne a 90 ans. Alors vous comprenez que il faut adapter après à chacune ce qui peut vous convenir. Et donc, en tout cas, si on aime Dieu de tout son cœur, on arrivera petit à petit à avoir une délicatesse de conscience, je ne dis pas une conscience scrupuleuse, une conscience étroite, une conscience étriquée, mais une âme délicate qui fait qu'elle saisit ce qui plaît à son bien-aimé. Et c'est cela qu'il faudrait arriver à... C'est vers là qu'il faudrait tendre. Il faudrait que vous ayez une délicatesse de conscience qui vous conduise à sentir par vous-même ce qui plaît à notre Seigneur dans votre vie et ce qui, aujourd'hui, pourrait encore lui déplaire. Et c'est ce qui vous permettra, après, de faire l'unité dans votre vie. Si vous avez cet amour vrai de notre Seigneur, un amour profond, eh bien, vous devez bien sentir qu'il y a peut-être telle ou telle chose qu'il faudrait aujourd'hui, sur lequel il faudrait soit mettre l'accent, ou au contraire, que vous devriez éviter. Et donc, c'est cette délicatesse de conscience qui va nous conduire petit à petit à rompre avec l'esprit du monde. Ça, c'est très clair chez les convertis. Les convertis, on cette grâce, au moment de la conversion, on sent qu'il y a une séparation qui s'opère. Et c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses. Eh bien, une bonne retraite, eh bien, on se convertit aussi d'une autre manière. Une bonne retraite est une forme de conversion. Et par conséquent, si cette retraite est vraie, enfin, si au moins nos rapports avec Dieu sont vrais, eh bien nécessairement, il y a certaines séparations aussi qui sont inhérentes, c'est une conséquence. Et ça se fait, je dirais, d'une façon, d'ailleurs souvent, quand on interroge les fidèles, ça se fait d'une façon naturelle. Naturellement, quand les gens se convertissent, ils sentent bien que certaines fréquentations ne sont plus, n'apportent plus rien. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et du coup, bien, il y a comme un tri qui se fait d'une façon naturelle. Alors ici, il faut faire attention aussi de ne pas forcément couper les ponts avec tout le monde. Ce n'est pas forcément ce que je veux vous dire. Il me semble que si le catholique, c'est quelqu'un qui doit faire du bien. Et si on veut faire du bien aux gens, eh bien, il ne faut pas forcément ne fréquenter que des gens qui ont absolument nos idées. Vous voyez. Parce que en fréquentant des gens qui n'ont pas nos idées, alors ça dépend si on est faible ou si on n'est pas faible. Si on est faible, il faut éviter de rentrer en contact avec des gens qui n'ont pas nos idées. Ou au moins éviter autant qu'on le peut. Si au contraire on est plus fort, on a le devoir de fréquenter aussi des gens qui n'ont pas nos idées dans le but de leur faire du bien. Ça c'est sûr. Bon après c'est à vous de voir dans le concret. Donc rompre avec l'esprit du monde. On peut dire que l'esprit du monde, il est résumé par Saint Jean, cet esprit du monde, à travers ce qu'il appelle la triple concupiscence. La concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. L'esprit du monde cherche à flatter notre orgueil, flatter notre sensualité, flatter nos désirs, les désirs de la partie inférieure de notre être. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit du monde. Et c'est pour cela que Saint Jean, qui lui avait vraiment l'esprit de notre Seigneur, il aimait notre Seigneur par-dessus tout, Saint Jean a eu le privilège de reposer sa tête sur la poitrine de notre Seigneur le soir du Jeudi Saint. Saint Jean qui ne disait qu'une seule chose à la fin de sa vie, c'était « aimez-vous les uns les autres ». On avait presque l'impression qu'il radotait parce qu'il disait toujours « aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres ». Eh bien, Saint Jean qui disait toujours « aimez-vous les uns les autres », eh bien, il disait « n'aimez pas le monde ni ceux qui est dans le monde ». Il ajoutait « si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ». Et alors après, il précisait « car tout ce qui est dans le monde est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. » Première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Et notre Seigneur lui-même a dit « ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que vous m'avez donnés, car ils sont vôtres. » Ce n'est pas pour le monde que je prie. Notre Seigneur n'a pas prié pour ce monde. Ce monde en tant qu'il est sous la coupe du démon. Saint Jean, chapitre 17, verset 9. Juste avant de mourir, notre Seigneur dit « Le prince de ce monde va être jeté dehors. » Le prince de ce monde. Le prince, c'est le roi du monde. Et qui est ce roi du monde qui doit être jeté dehors? C'est le démon. Donc, c'est normal, Dieu et Satan ne peuvent pas marcher ensemble. Et donc, par conséquent, si j'ai l'esprit de Dieu, eh bien, je dois me détacher de l'esprit du monde. Alors maintenant, si on veut aller plus loin... Pourquoi cette intransigeance de Saint Jean? Eh bien, en raison, tout simplement, de notre conception de la vie qui est non seulement différente, mais opposée à celle du monde. Le monde ne croit pas en Dieu. Le monde croit que la vie est faite pour jouir. On doit jouir de la vie, au maximum. Il faut essayer d'avoir le maximum de jouissance avec le minimum d'effort. Pour le catholique, lui, la vie n'est pas faite avant tout pour jouir, mais pour mériter le ciel. Donc celui qui a l'esprit du monde, il mise tout sur la terre. Pour lui, eh bien, l'essentiel, c'est ce qui se passe sur la terre. Pour le catholique, l'essentiel, c'est le ciel. On est fait pour le ciel. Ensuite, celui qui a l'esprit du monde, il ne croit pas que notre nature est déchue. Il croit que notre nature est bonne. Le monde croit que nos instincts sont bons. Et donc, il faut laisser libre cours à ses instincts, parce que nos instincts sont bons. Nous, nous savons, nous croyons que depuis le péché originel, nous sommes faibles. Nous avons une nature qui est viciée, on en a parlé. Mais nous croyons aussi que le bon Dieu nous a enrichis dès ici-bas d'un trésor merveilleux. Nous croyons que la Sainte Trinité est présente en nous. Alors, noblesse oblige. Il est tout à fait normal que notre comportement en tant que catholique soit différent et même d'une certaine manière, en partie, opposé à ceux qui n'ont pas la foi. Parce que nous, nous croyons que nous sommes faibles. Alors, en raison de cette faiblesse, eh bien, il y a des choses qu'on ne se permet pas. Et nous croyons que nous sommes aussi enrichis d'un trésor extraordinaire. Et c'est ce trésor extraordinaire qui est notre jardin secret, d'une certaine manière, eh bien, qui nous rend la vie, qui fait de cette terre un paradis anticipé, au moins en partie. Donc il est tout à fait normal, puisque nous n'avons pas la même conception de l'homme, nous n'avons pas la même conception du sens de la vie, que notre manière d'agir soit différente. Voyez, il y a un adage philosophique qui dit « agere sequitur esse », l'agir suit l'être. C'est normal qu'un catholique agisse en catholique, c'est comme un homme du monde agit comme homme du monde. Et c'est ce qui explique que saint Augustin pouvait dire « le monde », il donne une définition du monde, « le monde, c'est ce qu'on aime moins à mesure qu'on aime Dieu davantage. Et c'est ce qu'on aime davantage à mesure qu'on aime moins Dieu. » Si vous sentez en vous un grand amour du monde, c'est le signe que votre amour de Dieu n'est pas encore profondément enraciné. Alors bien sûr, ça dépend après de l'âge, ça dépend du contexte familial, ça dépend de beaucoup de circonstances, mais une chose est certaine, c'est que plus vous vous rapprocherez de Dieu, plus vous vous détacherez du monde. C'est indispensable. Et le démon, eh bien, lui, quand il voit qu'on est attaché à Dieu, il cherche à nous faire croire qu'on peut à la fois être attaché à Dieu et attaché au monde. Et c'est pas vrai. Donc c'est à chacun d'entre nous après de se demander où est-ce que je me situe par rapport au monde? Dans quelle classe je me trouve? Est-ce que j'ai pas encore aujourd'hui tendance à trop rentrer dans le jeu des concessions? Dans ma manière de voir les choses, dans mes loisirs, dans mes tenues. Pour maintenant vous aider à être femme à part entière et femme catholique, eh bien, je voudrais vous montrer, vous faire un rappel sur la conception de la femme selon les philosophes allemands. Parce que la femme telle qu'elle est aujourd'hui, la femme moderne, est issu de cette manière de penser. Il faut bien être persuadé que les gens sont des moutons et on se laisse avoir par le sens du courant. Mais ce sens du courant, il est inoculé par des hommes au départ. Et donc c'est intéressant de savoir quelles sont les idées des hommes qui ont façonné la femme d'aujourd'hui. Parce que la femme d'aujourd'hui, eh bien, a été conçu, on pourrait dire ça comme ça, par des hommes au départ. Et cette philosophie allemande a eu un rôle très important. Donc si on veut être capable de renoncer à certaines choses, de ne pas être esclave et mouton de Panurge, il est bon de savoir quelles étaient la mentalité de ces hommes qui ont forgé l'idéal de la femme d'aujourd'hui. Et pour ça, on pourrait dire que la place qui est donnée à la femme de la société actuelle vient de deux courants de pensée. La ligne de Nietzsche et celle de Marx. Selon Nietzsche, la femme est un simple instrument de plaisir pour l'homme. Voici ce que disait Nietzsche. L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. L'homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier. Tout le reste est folie. Donc, ainsi parlait Zarathoustra. Donc, selon cette conception de Nietzsche, la femme est le jouet de l'homme. Et c'est justement pour pouvoir jouir de la femme qu'on a promulgué les lois en faveur de la contraception, l'avortement, qu'on a développé les modes indécentes, qu'on a réduit aussi le temps de travail au profit du temps de loisir. Donc la femme est conçue comme un instrument de plaisir pour l'homme. Et donc ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui y ont pensé et qui se sont dit comment faire en sorte d'arriver à cette fin. Donc si la femme ne veut pas tomber dans ce piège, il faut qu'elle ait conscience de cette philosophie. Et ensuite, deuxième ligne du courant de pensée qui a conduit à la femme moderne, c'est la pensée de Marx. Pour Marx, l'homme aussi est fait pour la guerre, mais une guerre contre la matière qui peu à peu se rend. Une guerre qui doit être menée par les hommes et par les femmes au profit de tous. Et donc la femme, pour Marx, la femme est perçue comme son compagnon de combat. La femme est conçue comme étant le compagnon de combat de l'homme. Aussi, pour Marx, ce qui était très important selon lui, c'était de détacher la femme du cercle de son foyer pour la mobiliser sur le front de la production. Il faut que la femme puisse produire comme l'homme. Alors, si on veut que la femme soit capable de produire comme l'homme, si on veut que la femme puisse, elle aussi, se retrouver sur le marché du travail, il faut essayer de s'efforcer de gommer toutes les différences qu'il y a entre la femme et l'homme. Donc, pour Marx, la femme n'apparaît plus comme complémentaire de l'homme, avec des dons spécifiques, avec des qualités uniques, mais la femme apparaît comme un homme comme les autres. Cette conception de Marx résulte du principe égalitariste, qui est cher à la République, issu de la Révolution. Donc, selon Marx, la femme doit se modeler sur l'homme. Pour Marx, l'idéal de la femme, c'est l'homme. Donc dans ce type de société qu'on pourrait appeler unisexe, l'homme devient l'unique référence sur laquelle la femme doit se plier. Et cette conception va avoir des conséquences jusque dans le vêtement et certaines coupes de cheveux. Elle va aussi se concrétiser par l'accès des femmes à tous les postes occupés autrefois par les hommes, comme gendarmes, chauffeurs de poids lourds ou ministres. Notons que pour Marx, comme pour Nietzsche, la civilisation est une civilisation masculine. Les valeurs féminines doivent s'y intégrer coûte que coûte. Pour Nietzsche, le destin de la femme, c'est d'être un instrument de l'homme, d'être le jouet de l'homme. Et pour Marx, elle doit être le décalque de l'homme. Donc dans un cas, son jeu est de s'assimiler à l'homme comme l'instrument de son plaisir. La femme devient l'instrument de plaisir de l'homme, et dans l'autre cas, elle est sa camarade de travail. Par conséquent, selon ces philosophes, le monde féminin trouve sa soi-disant libération en accédant au monde masculin. Mais ici, il est intéressant de se poser la question et de voir un petit peu quel est l'idéal que le bon Dieu a conçu pour la femme. Est-ce que le bon Dieu a conçu la femme pour qu'elle soit un homme comme les autres, ou pour qu'elle soit le jouet de l'homme? Eh bien non, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc on peut dire que l'erreur du monde moderne, c'est de prétendre que l'humanité deviendra plus pleinement humaine en devenant moins féminine. L'homme moderne prétend que l'humanité deviendra plus humaine en devenant moins féminine. Puisque le seul idéal aujourd'hui, c'est l'homme. En réalité, il faudrait plutôt se demander de quelle manière, en devenant plus féminine, la société actuelle deviendra plus humaine. Donc c'est la question, de quelle manière, en devenant plus féminine, la société actuelle deviendra plus humaine ? Il ne faut pas oublier que si le monde est transformé par la force virile, il ne peut être fécondé que sous le signe de la femme. Il appartient à l'homme de façonner le monde, mais il appartient à la femme d'être façonnée par Dieu. Alors que faire pour rendre la société actuelle plus humaine ? Eh bien, en rendant à la femme la place qui lui revient dans la société. Et rendre à la femme la place qui lui revient dans la société, ça signifie spécialement, il faut que les femmes retrouvent leur vraie dimension spirituelle. Donc maintenant, je vais vous lire quelques extraits d'une allocution prononcée par le pape Pie XII le 29 septembre 1957. Aux organisations catholiques féminines. Et là, on va maintenant voir la femme selon la conception catholique. Après avoir vu la conception de la femme chez les philosophes allemands, avec les conséquences qui en découlent, voyons maintenant la conception de la femme décrite ici par le pape Pie XII. Afin que la société actuelle devienne plus humaine en étant plus féminine. Il faut savoir ce qu'on entend par plus féminine. La vérité, disait le pape Pie XII, la plus méconnue des hommes d'aujourd'hui est cependant la plus fondamentale pour vous et la relation de la femme à Dieu. La vérité la plus méconnue des hommes et la plus fondamentale, c'est la relation de la femme à Dieu. La femme a perdu le sens de sa vraie dimension par rapport à Dieu. Et donc, dès lors qu'elle perd cette dimension, eh bien, elle devient le jouet de l'homme, ou le compagnon de l'homme. La femme vient de Dieu, dit le pape Pie XII, elle lui doit son existence, les caractéristiques de son être, de sa tâche terrestre, et la destinée éternelle qui couronnera l'accomplissement fidèle de sa mission. Donc la femme vient de Dieu, elle lui doit son existence, elle lui doit tout ce qu'elle est, et elle lui doit également d'être couronnée par lui un jour si elle est fidèle à sa mission. Le pape poursuit, vous connaissez l'enseignement catholique sur l'origine de l'homme et de la femme. Dieu les créa tous les deux à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire des êtres intelligents et libres, capables de le connaître, de l'aimer, capables aussi de se perpétuer, de dominer la création et de l'utiliser pour leur bien propre et leur service. Donc la femme comme l'homme, donc deux êtres intelligents et libres, capables de connaître Dieu, capables d'aimer Dieu et capables aussi de se perpétuer, donc capables de transmettre la vie. Aussi, le sens de la vie humaine peut-il se résumer d'un seul mot, chercher Dieu. Donc on est tous faits pour Dieu, la femme comme l'homme. Et sans doute la femme presque, d'une certaine manière, plus que l'homme. C'est ce que le pape Pie XII dira un peu plus loin. Cherchez Dieu, cherchez celui qui incessamment appelle à lui sa créature pour la combler toujours davantage de la plénitude de sa vie et de son amour. Alors après avoir rappelé que la femme est faite pour Dieu, elle vient de Dieu, elle est faite pour Dieu, le pape revient sur la situation actuelle. Quelle attitude adopte le monde moderne à l'égard de cette vérité fondamentale de l'origine divine de l'homme et de la femme ? Vous le savez, l'idée de Dieu apparaît comme superflue dans un monde tombé aux mains de l'homme, au pouvoir de la science et de la technique, et d'où l'on a éliminé les croyances encombrantes et les superstitions. Cette atmosphère d'athéisme menace plus gravement la femme que l'homme, tant dans sa dimension personnelle que dans son rôle social. L'atmosphère d'athéisme menace certes l'homme et la femme, mais menace plus encore la femme que l'homme. Pourquoi cela ? Le pape le dit, car par ses dispositions innées et la fonction à laquelle sa nature la destine, la femme est davantage en harmonie avec les récoltes spirituelles. La femme est plus pieuse que l'homme par nature. La femme est plus religieuse que l'homme par nature. Par conséquent, que l'homme abandonne Dieu, c'est déjà très grave. Mais que la femme abandonne Dieu, c'est presque encore pire dans le sens où elle est par nature plus religieuse. Donc elle est dans un état de contradiction encore plus grand par rapport à sa nature lorsque la femme se sépare de Dieu. Et c'est encore aussi plus grave d'une certaine manière quand c'est une femme qui se sépare de Dieu pour une autre raison, c'est que c'est la femme qui transmet la vie et qui est l'éducatrice du genre humain. Et donc, si la femme n'a pas le sens de Dieu, elle ne pourra pas transmettre ce sens de Dieu aux générations qui vont venir. Et donc, c'est les générations qui vont venir qui seront ensuite moins chrétiennes et moins humaines. Donc là, il faut que la femme comprenne bien sa mission. Par nature, elle est plus spirituelle, et si elle est plus spirituelle que l'homme par nature, c'est parce que son rôle est justement de transmettre ses récoltes spirituelles aux âmes qu'elle met au monde. Aux personnes, enfin aux enfants qu'elle met au monde. Donc c'est ce que dit le pape Pie XII. Par ses dispositions innées et la fonction à laquelle sa nature la destine, la femme est davantage en harmonie avec les récoltes spirituelles. Elle les perçoit plus aisément, les rend sensibles aux autres, en particulier à ceux dont elle a la charge. Donc elle perçoit davantage les choses de Dieu. Elle est capable de rendre d'une façon sensible ces choses de Dieu aux âmes qui l'entourent, et spécialement à celles, donc aux personnes dont elle a la charge. Le pape poursuit la dignité personnelle, la dignité de la femme, la dignité personnelle, le respect qu'on lui doit, le respect que l'homme doit à la femme, le respect qu'on lui doit, sont motivés d'abord par la sauvegarde de cette mission. Donc si l'homme doit respecter la femme, c'est avant tout parce que la femme a pour rôle de transmettre aux âmes ce qu'il y a de plus noble, à savoir cette vie spirituelle. Et maintenant, pour que l'homme respecte la femme, il faut que la femme, de son côté, se montre respectable. Dans ce domaine, c'est toujours à la femme de fixer les limites. L'homme ne dépassera jamais les limites fixées par une femme qui est forte. Et qui est déterminée. C'est que malheureusement, souvent les femmes jouent avec le feu et ensuite elles sont les premières à être victimes de ce jeu. Le père Emmanuel écrivait, c'est paru dans Itinéraire de numéro 27 de 1958, vouloir être séduisante et désirable, c'est pour une femme se dégrader. C'est vouloir exciter en pure perte, pour un motif de vanité personnelle et de vanité animale, le plus sauvage et le plus bestial des instincts. Celui qui, étant donné la liberté et les fins morales de l'humanité, a le plus besoin d'être contenu et dirigé. Il n'y a pas de société chrétienne possible sans la vertu de modestie chez les femmes, qui consiste précisément à montrer à l'extérieur par ses manières la retenue à laquelle l'oblige la grandeur de son rôle éducatif dans l'humanité, la dignité de son rôle dans la famille. Si vous avez compris que votre rôle, c'est de transmettre les valeurs spirituelles aux générations à venir, eh bien vous comprendrez la nécessité pour vous de cette vertu de modestie. Et cette vertu de modestie doit être présente en vous pour vous permettre d'accomplir votre rôle qui est avant tout spirituel et non pas charnel. Et c'est cette modestie qui sera la condition de votre liberté, encore une fois. C'est ce que je cherche à expliquer déjà aux filles à Pouilly dès l'âge de 14-15 ans, au moment où elles veulent devenir des jeunes filles libérées. Pourquoi j'ai pas le droit de mettre de pantalon, pourquoi ceci, pourquoi cela, et les jupes courtes, et ceci, cela. Eh bien, j'essaie de leur expliquer ce que je vous dis là. La modestie est une condition de votre liberté et du respect qui vous sera accordé. Donc, le mépris de la femme, aujourd'hui, vient en grande partie, eh bien, du comportement des femmes elles-mêmes, qui se présentent comme objet de convoitise. Et donc, il ne faut pas qu'elle soit ensuite surprise des réactions qu'elle suscite elle-même. Voyez. Donc, vous devez inspirer le respect autour de vous, par votre tenue extérieure, par votre langage et jusque par votre tenue vestimentaire. Alors quand les filles sont jeunes, elles ont toujours la hantise de la femme coincée, rigide, bornée, donc à vouloir être ouverte, cool, dans le vent. En fait, ce qu'il faut comprendre, voyez, c'est que il faut chercher à développer l'être et non pas le paraître. Bon Dieu veut que nous soyons. Dès lors qu'on cherche à paraître, eh bien c'est une façade, c'est un masque. Mais c'est pas ce qui va, c'est pas ce que le bon Dieu attend de nous. Il y a également un autre discours qui était donné par le pape Pie XII aux jeunes filles d'Action catholique sur la question de cette modestie.
Dire juste mesure.
Mais comme disait déjà le pape Pie XII. Alors, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, hein ? La modestie n'est plus de mode. Alors, en quoi consiste cette juste mesure ? Dans la tenue vestimentaire, par exemple. En soi, maintenant, après, aujourd'hui, il faut voir, mais en soi, normalement, on essaie d'éviter de s'habiller à l'encontre des goûts et des usages communs. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, il faut voir ce que sont les goûts de l'homme moderne, c'est pas... Et puis également, cette juste mesure consiste à éviter les excès d'ornementation ou de complaisance dans le port des vêtements, ou une recherche avec une solitude exagérée. Il y a toujours un principe moral qui veut que in medio stat virtus, la vertu se trouve dans un milieu. Et pour savoir ce que vous pouvez mettre ou ne pas mettre comme vêtement, eh bien, il faut toujours se rappeler quelques principes que rappelle le pape Pie XII. Le premier principe qu'il rappelle, c'est que le bien de notre âme l'emporte sur celui de notre corps. Donc si j'ai très chaud et que je veux me mettre à l'aise, mais que c'est au détriment du bien de mon âme, eh bien en ce moment-là, c'est le bien de mon âme que je dois mettre en valeur, et donc que je dois privilégier. Et donc il y a peut-être certaines tenues que je ne dois pas mettre. Voyez. Le bien de mon âme l'emporte sur celui de mon corps. Alors ce principe, là encore, je pense que vous êtes toutes d'accord et que ça ne pose pas de difficultés. Mais maintenant, une chose que vous oubliez parfois, enfin vous, in genere, hein, pas en particulier, en général, que certaines femmes oublient, c'est que le bien de l'âme de votre prochain l'emporte sur celui de votre propre corps. Le bien de l'âme de votre prochain l'emporte sur celui de votre corps. Donc si par une tenue légère, ça ne fait rien à votre âme et ça ne vous nuit pas directement à votre vie intérieure, si par cette tenue vous provoquez des mauvaises sensations chez les hommes, vous êtes coupable par cela. Alors maintenant, il faut distinguer, il y a encore une distinction à faire, c'est que de la même manière qu'on distingue le scandale des faibles et le scandale des gens de mauvaise foi. Les gens qui sont de mauvaise foi, ils scandaliseront toujours. Par exemple, il y a des fidèles qui sont toujours mécontents, donc le prêtre, il prêche longtemps, il nous rase, il prêche pas longtemps, il s'est pas foulé. On arrive à le joindre toujours au téléphone, tiens, mais il va jamais voir ses fidèles, on n'arrive pas à le joindre au téléphone, mais tiens, il est toujours à l'extérieur. Bon. Il fait des dépenses, oh, il exagère, il fait pas des dépenses, mais il est radin, enfin bon, il y aura toujours quelque chose. Bon. Donc il y a le scandale des gens de mauvaise foi, vous ne l'empêcherez jamais. Mais ensuite, il y a le scandale des faibles. C'est sûr que si vous savez qu'il y a des gens qui sont jeunes convertis, qui sont là pour la première fois dans la chapelle, c'est pas forcément le moment de faire un sermon qui soit trop dur ou qui puisse choquer ces personnes qui viennent là pour la première fois. Donc on doit ménager le scandale des faibles, vous voyez, mais pas le scandale de mauvaise foi, on ne pourra jamais l'empêcher. Et bien de la même manière, si vous avez des gens qui sont vicieux autour de vous, que vous soyez comme ceci ou comme cela, eh bien vous ne pourrez pas les empêcher d'avoir peut-être de mauvais regards. Mais maintenant, moi je dis que si il s'agit de personnes normales, je dirais, enfin équilibrées, par votre attitude, vous pourriez attirer de mauvaises pensées. Et en ce moment-là, vous êtes coupable de ces mauvaises pensées que vous avez provoquées chez l'autre. Même si vous, en vous, il n'y a eu aucune difficulté, enfin, s'il n'y avait pas de problème de votre côté. C'est ce que dit le pape Pie XII. Hein. Le pape Pie XII allait jusqu'à dire, si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Vous voyez, c'est une phrase forte, hein. Si certaines chrétiennes soupçonnaient, ça veut dire qu'elles ne soupçonnent pas. Ça veut dire que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte des tentations qu'elles peuvent provoquer chez les autres. Alors elles font ça par vanité, par désir de plaire, par désir de paraître, mais elles ne se rendent pas compte parce que les hommes ne sont pas des femmes. Enfin, ils ne doivent pas au courant, mais... Et donc, vous pouvez être responsable. Si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Donc, ne jamais rien mettre comme vêtement qui soit un péril grave et prochain pour le salut de l'âme, même si c'est plus commode et plus hygiénique pour le corps. Enfin, ces principes me semblent tout à fait logiques. Les hommes en ont parlé, hein, même à la messe, ils disent qu'à la messe, quand il y a des femmes en pantalon devant eux, ben, ça leur donne plus que des distractions, si vous voulez. Alors, donc, il faut faire attention. Et il me semble aussi que c'est dans cette ligne, d'ailleurs, quand on parle aux femmes, je vous l'avais dit au tout début de la retraite, quand on vous demandait d'avoir la tête couverte, eh bien, c'est dans cette même ligne, entre autres, il y a beaucoup d'arguments, hein, pour en parler pendant 10 heures, d'avoir la tête couverte. C'est aussi pour éviter au moins la distraction. Bon, après, bien sûr, ça dépend où, le chapeau. Donc, c'est pas le but, hein, c'est pas... Donc, mais si vous êtes modeste, disons, dans la chapelle, vous évitez les distractions des personnes qui vous entourent, et spécialement des hommes. Je l'ai bien remarqué, je confesse à Pouilly, donc les enfants, et bien moi-même, donc je dis ça en tant qu'homme. Les filles, quand elles viennent se confesser, elles ont toujours, je ne l'ai jamais dit aux religieuses, je vais leur dire, elles ont un foulard sur la tête. Par contre, quand elles viennent prier le soir, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, je ne connais pas les règles dominicaines, hein, quand elles viennent prier le soir à la chapelle, elles mettent rien sur la tête. Eh bien, je suis plus distrait quand elles mettent rien sur la tête, quand elles mettent quelque chose, c'est comme ça. Donc, ne serait-ce que pour cela, déjà, donc, à la chapelle, il faut éviter donc les distractions pour soi, mais aussi pour les autres. Et donc, si... par votre chevelure, vous pouvez être un sujet de distraction pour les hommes, eh bien, c'est déjà un motif qui me semble plus que suffisant, par respect pour les autres au moins, de mettre quelque chose sur la tête. Maintenant, alors, il y a un motif qui est beaucoup plus profond et qui est peut-être plus noble et plus beau, plus agréable pour vous, c'est de vous rappeler que les grands moments de la vie d'une femme se passent sous le voile. Et parce que le voile, ou le foulard, donc le voile, est le symbole de la féminité. Le voile est le symbole de la féminité. Vous pouvez constater que les grands moments de la vie d'une femme se passent sous le voile. Vous avez le voile du baptême, vous avez le voile de la première communion, de la communion, lorsqu'elle fait sa première communion, de l'enfant qui fait sa première communion. Vous avez le voile de l'épouse, le jour du mariage. Vous avez le voile de la religieuse, vous avez le voile de la veuve. Donc le voile est le symbole de la féminité. Donc l'épouse, la religieuse, la veuve portent le même symbole. Et donc le voile symbolise cette vie cachée, qui est un petit peu le rôle de la femme sur la terre, et à l'image de la Sainte Vierge. Et si on touche au signe, si on arrache le signe, si on enlève le signe, on finit par toucher à la réalité qui est présente sous ce signe. Je prends un exemple que vous comprendrez mieux, c'est l'exemple des prêtres, la question de la soutane pour les prêtres. La soutane est aussi un signe, un symbole. La soutane symbolise le prêtre. C'est le signe du prêtre. Eh bien, les francs-maçons qui connaissent bien, qui ont une stratégie qui est bien déterminés, ont voulu arracher aux prêtres leur soutane, dans le but de faire en sorte que petit à petit, les prêtres perdent leur identité de prêtre, perdent leur sens de sacerdotal. Alors c'est sûr que si demain j'enlève ma soutane, bon, je resterai avec un esprit sacerdotal, enfin j'espère, si c'est juste une journée, vous voyez. Mais à force, après, de vivre dans le monde, on finit par perdre son idéal. Et ça, c'est parce que c'est lié à notre nature humaine. On a besoin de signes. Les signes sont des rappels. C'est sûr que, on nous l'a dit, par exemple, quand on a pris la soutane, là où la soutane ne passe pas, le prêtre ne passe pas. Et c'est logique. Là où on sent qu'un prêtre ne peut pas passer, eh bien donc, si on est en soutane, eh bien on se dit, si ma soutane ne peut pas passer dans tel endroit, c'est le signe que je ne dois pas passer dans tel endroit. Mais si on est en civil, on se dit, bon, pourquoi pas, enfin bon, personne ne me reconnaîtra. D'ailleurs, c'est une histoire, enfin, c'est... Un prêtre, bon, il avait déjà un certain âge, a voulu un jour aller voir une pièce de théâtre avec sa sœur dans une région qui n'était pas la sienne. Et pour éviter trop de se faire remarquer, parce qu'il dit, bon, sa sœur a à peu près le même âge, bon, il n'était pas obligé de dire à tous les gens, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur, bon. Donc il dit, pour éviter d'avoir des histoires, je vais en civil, bon, on sera discret, et puis voilà. Donc le voilà parti en civil à cette pièce de théâtre avec sa sœur. Et manque de peau, juste derrière lui, il y avait des fidèles qui s'étaient retrouvés dans la même ville en vacances pour voir la même pièce de théâtre. Et c'est le prêtre lui-même qui me l'a raconté. Il n'a rien vu de la pièce de théâtre. Il s'est dit qu'à partir de ce moment-là, c'était fini, il ferait plus ce coup-là, quoi. Enfin bon, ça c'était une parenthèse. Mais donc normalement, là où la soutane ne passe pas, le prêtre ne passe pas. Et donc pour la question du voile, c'est un petit peu la même chose. Et pour la question de la mode du pantalon aussi, c'est un petit peu pareil. Bon, je ne dis pas si vous portez une fois un pantalon pour aller pour faire du cheval, pour faire du ski, j'en sais rien. Bon, peut-être certains me trouveront laxiste, j'en sais rien. Bon. Mais à vous de voir. Mais d'une façon générale, il faut savoir aussi que la mode du pantalon, comment elle est venue? Eh bien, on a voulu, là encore, modeler la femme sur l'homme. Et donc, par conséquent, eh bien, en enlevant ce signe de féminité, ou en faisant en sorte d'identifier la femme à l'homme par cette tenue vestimentaire, eh bien, on gomme à nouveau cette différence. Et donc, la femme devient moins femme à force d'éliminer tous ces signes de féminité. C'est logique. Ça ne sera pas forcément du jour au lendemain, mais petit à petit, eh bien, c'est évident que la femme va perdre sa féminité en perdant les signes de féminité. Alors le pape, je reviens au premier discours du pape Pie XII. Le pape Pie XII dit, le relèvement de la condition de la femme suppose comme première étape l'affermissement du principe qui l'assure. Donc le relèvement de la condition de la femme, il constate que la femme aujourd'hui est avilie. Ce relèvement de la condition de la femme, qu'est-ce qu'il suppose? L'affermissement du principe qui l'assure. Non seulement Dieu a donné à la femme d'exister, mais la personnalité féminine dans sa structure physique et psychique répond à un dessein particulier du Créateur. L'homme et la femme sont des images de Dieu et selon leur mode propre, des personnes égales en dignité. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils disent, bon, l'homme et la femme sont l'image de Dieu, bon, on le sait, mais selon leur mode propre. Selon leur mode propre. Donc il y a bien une différence, une structure physique et psychique différente de la femme et de l'homme. Donc l'homme et la femme sont des images de Dieu et selon leur mode propre, des personnes égales en dignité et possédant les mêmes droits sans qu'on puisse soutenir en aucune manière que la femme soit inférieure. Donc la femme et l'homme sont des images de Dieu selon leur mode propre. Et donc comme c'est selon leur mode propre, il ne faut pas que la femme cherche à se modeler sur l'homme. Il faut que vous vous rendiez compte, voyez, et ça aussi je cherche à faire comprendre aux jeunes filles, donc à Pouilly, c'est que le féminisme est un masculinisme. Le féminisme est une réduction de la femme à l'homme. Mais la femme, en se modelant sur l'homme, elle devient moins femme, mais elle ne devient pas homme pour autant. La femme reste femme. Donc une femme qui cherche à se modeler sur l'homme, elle ne peut que perdre, elle ne peut rien gagner, parce qu'elle ne deviendra jamais un homme. Et ça laisserait entendre qu'il y aurait chez elle un complexe d'infériorité. Ce qu'on demande à une femme, c'est d'être femme. Donc le féminisme est un masculinisme. Et il faut que la femme reste pleinement femme pour pouvoir accomplir pleinement son rôle de femme. Comme l'homme, il faut qu'il soit pleinement homme et pour qu'il remplisse pleinement sa fonction d'homme. Alors aujourd'hui, on a des hommes qui sont des femmelettes, et puis on a des femmes qui sont des garçons manqués, enfin des hommes... Et ça va pas. Enfin, il n'y a pas que ça, heureusement. Hein. On a des femmes qui sont pleinement femmes et des hommes pleinement hommes. Alors ensuite, pour comprendre ce fameux mode propre de la femme créée à l'image de Dieu, eh bien la femme est appelée à collaborer avec l'homme à la propagation et au développement de la race et assume en cela le rôle délicat et sublime de la maternité. Donc la femme a été conçue pour être mère. Vous êtes toutes appelées d'une manière ou d'une autre, pas forcément maternité physique, ça dépend des personnes, c'est le cas de la plupart des femmes, mais pas de toutes, mais la femme, elle est mère par nature. La femme est appelée à collaborer avec l'homme à la propagation et développement de la race humaine et assume en cela le rôle délicat et sublime de la maternité. Aussi, Dieu a-t-il dispensé à la femme des dons inestimables qui lui permettent de transmettre non seulement la vie physique, mais aussi les dispositions les plus intimes et des qualités d'ordre spirituel et moral qui déterminent le caractère. Donc par votre maternité, vous avez non seulement vous mettez les enfants au monde, mais vous êtes capable, par votre nature, de transmettre les qualités qui sont nécessaires pour que demain, la génération à venir, soit fidèle elle-même à sa mission. Alors c'est vrai que, bon, pour les femmes qui sont célibataires, il est toujours préférable en tout cas que dans le domaine du travail, que ce travail qu'elles font soit plutôt dans la ligne de la maternité. Alors c'est sûr que celles qui sont institutrices ou infirmières, c'est plus facile que pour d'autres. Mais c'est la question quand même que toute femme doit se poser, c'est en tant que femme, comment puis-je m'épanouir pleinement ? Une femme, normalement, comme elle est mère, elle doit s'épanouir pleinement comme mère. Donc, de quelle manière je peux exercer ma maternité ? Alors, les femmes qui sont religieuses, ben, j'exercent, elles, une maternité qui est plus spirituelle. Elles fécondent les âmes à Jésus-Christ par leur prière, par leur sacrifice. Alors, d'une façon indirecte, une femme, par exemple, qui travaille dans le monde, si son travail n'est pas directement en rapport avec la maternité, peut-être qu'elle peut essayer, bon, soit si elle a des neveux et nièces, ben, elle peut s'en occuper, ou sinon, elle peut aussi... donner une partie peut-être au moins de son argent, si elle en a, si elle le peut, pour soutenir les écoles, pour soutenir des œuvres qui sont en rapport avec l'éducation du genre humain. Ou passer des temps libres aussi pour aider les enfants, pour que cette maternité puisse se développer. Et donc si vous avez compris que Dieu a fait en sorte que vous soyez plus spirituel que l'homme, parce que c'est vous qui formait les générations à venir, et spécialement les petits-enfants, et c'est vrai que les premières années sont capitales pour l'avenir, eh bien, vous comprendrez pourquoi la place en soi, après il y a des circonstances qui font que ce n'est pas toujours possible, mais en soi, la place première de la femme, c'est auprès de ses enfants à la maison. Saint Paul déjà le disait à Timothée, « Celui qui ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux qui vivent dans sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Timothée, chapitre 5, verset 8. Le pape Benoît XV le rappelait, donc au XXe siècle, « Nul changement dans l'opinion des hommes. » Donc c'est pas parce que les opinions des hommes varient. « Nul changement dans l'opinion des hommes. Aucun état de choses nouveau, ni le cours des événements, ne saurait jamais arracher la femme consciente de sa mission à cette sphère naturelle qu'est pour elle la famille. » Donc la femme doit avant tout s'épanouir dans sa famille parce que c'est ce que le bon Dieu attend d'elle. Alors ce que je dis souvent aussi aux jeunes filles, avant qu'elles se marient, c'est qu'il faut qu'elles apprennent à trouver, qu'elles soient davantage des femmes d'intérieur que des femmes d'extérieur. Donc on voit bien, il y a des femmes qui sont des femmes d'extérieur, donc elles sont par nature, elles sont... Certes, elles essaient au mieux de s'occuper de leurs enfants, mais c'est pas, c'est plutôt la poisse, quoi. Enfin, s'occuper des enfants, bon, c'est pas vraiment leur truc, quoi. Tandis que, bon, elles s'épanouissent davantage au bureau, dans les relations sociales, humaines, extérieures. Mais normalement, il faut déjà, donc quand elles sont plus jeunes, et quand on est plus jeune, parce que c'est comme ça que c'est là qu'on prend les bonnes habitudes, il faut essayer de trouver son bonheur dans les tâches qui incombent à une femme au foyer. Parce que c'est la plupart d'entre vous qui êtes encore jeunes, c'est dans ce contexte que vous devrez évoluer plus tard. Et quelles sont les raisons alors pour lesquelles c'est important que la femme reste au foyer? Bon, vous l'avez compris, c'est pour pouvoir transmettre le meilleur d'elle-même aux enfants. Mais c'est aussi, contrairement aux slogans qui ont été transmis aux générations passées, aux dernières générations, dans le but d'amener les femmes au travail, eh bien, le pape Léon XIII disait « Les ouvrages à l'intérieur du foyer sauvegardent beaucoup mieux l'honneur du sexe féminin. » Parce que souvent, on caricature, donc la femme, c'est le balai, c'est échanger les couches des enfants, bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui stigmatisé le rôle de la femme qui reste à la maison. Mais en fait, comme le dit le pape Léon XIII, l'épouse est vraiment la reine du foyer, car son travail est imprégné de pensée, d'affection, d'attention et le plus souvent de très haute vertu. Donc il y a, en s'occupant de ses enfants, qu'on aime, eh bien, et pour son mari aussi, en s'occupant de la maison pour le mari que l'on aime, eh bien, il y a un certain nombre de pensées, d'affections, d'attentions qui sont présentes et qui sont tout à fait, nobles. Je cite encore le pape Léon XIII. Il n'y a pas d'œuvre matérielle se rapprochant plus de l'œuvre proprement spirituelle du soin des âmes que les très humbles tâches ménagères. Car en définitive, la femme au foyer travaille à entourer toute la vie humaine de l'époux et des enfants de ce qui leur est nécessaire pour vivre humainement. Et il continue, dans cette conduite de la famille, il y a incomparablement plus de pensée humaine et d'activité morale que dans n'importe quelle tâche salariée. C'est sûr que si vous êtes caissière dans un casino, vous aurez sans doute moins de pensée humaine, d'activité morale, qu'en vous occupant des enfants que vous aimez, que vous avez mis au monde. L'objet principal de la sollicitude de la femme doit être, alors après il montre quelle doit être la pensée d'une femme, normalement au foyer, l'objet principal de la sollicitude de la femme doit être de regarder le bien spirituel de son mari. Donc il faut penser à cela. Vous devez bien vous occuper de vos enfants et vous devez aussi vous occuper du bien spirituel de votre mari. Alors ici, attention à la manière, hein. Parce que il y a des femmes qui sont, en général, vous avez à peu près toutes, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond, mais pas toujours sur la forme. Parce que en général, il y en a qui veulent trop imposer à leur mari leur manière de voir et du coup, ça passe pas du tout. Il y a des maris qui... Il faut savoir que l'homme est assez susceptible sur cette question religieuse. Je dis, il n'aime pas trop que la femme s'immisce dans la question de sa vie intime au niveau de la vie religieuse. Bon, ça dépend, il y a des hommes qui sont très pieux, qui sont bons. Mais en général, c'est pas le cas. Surtout si votre mari n'est pas très pratiquant, ou en tout cas s'il fait juste autant que, pas plus que, c'est pas parce que vous allez le tanner que vous allez obtenir quelque chose. Hein. Enfin, vous le savez, pas vous-même, peut-être, par expérience. Mais ça n'empêche que vous revenez encore à la charge, surtout après une retraite, pauvre mari. Donc, allez-y, mais mollo, quoi. Voilà. Alors, oh là là, le temps passe. Mais je suis vraiment désolé, ma montre est arrêtée à 9h30. J'avais beaucoup de choses à vous dire encore, mais oui, je vais me rapprocher de la conclusion. Tout d'abord, conséquence de tout ce que je vous ai dit là sur la femme, j'aurais voulu vous parler de deux exemples de femmes, enfin d'un exemple et d'un contre-exemple. Eh bien, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. C'était l'exemple d'une... juste un mot de... Est-ce que j'ai dit ou je ne dis pas? Dany Dermot, donc là c'était le contre-exemple, mais vous pourrez le lire, je pense, c'est un article qui est paru, c'est la belle Laurence qui l'avait fait, dans... la revue des infirmières là, de la CIM, malheureusement, bon, une femme qui, en 1963, a fait un avortement et a décrit ensuite donc 30 ans plus tard, une 40 ans plus tard, presque 40 ans plus tard, donc ce qui s'est passé, quoi. Et donc c'est vraiment un exemple très triste. Et puis, je vais essayer de vous retrouver la référence pour que vous puissiez le lire si ça vous intéresse. Ou alors, je vous ferai des photocopies. Et puis ensuite, l'autre exemple, là, qui était un exemple positif, je crois que j'en avais parlé l'année dernière. C'est l'exemple de la bienheureuse Jeanne Beretta-Mola, qui à la même époque, donc Annie Dermot était enceinte en 1963, et la bienheureuse Jeanne Beretta-Mola était enceinte en 1962, et la bienheureuse Jeanne Beretta-Mola est morte en fait en mettant son enfant au monde. Et donc il y a une... sa vie est vraiment très très édifiante. Elle a été donc béatifiée par le pape Jean-Paul II. Et donc je voulais vous montrer que bah, quel type de femme vous vouliez être plus tard, quoi. Mais bon, je ne développe pas plus, je ne fais que citer. Donc en conclusion sur tout ce que je vous ai dit sur la femme, sur la place de la femme, donc comprendre un petit peu la mentalité de ce... Enfin de, en voyant les femmes d'aujourd'hui, comment elles vivent, comprendre que ce sont des hommes qui ont été à l'origine de ce comportement féminin que l'on voit aujourd'hui. Donc ça, en être convaincu. Et donc avec la ligne de Nietzsche et la ligne de Marx, qui résume bien, femme jouée de l'homme, femme compagnon de l'homme. Et c'est ce que l'on voit exactement aujourd'hui. Donc se dire que les femmes qui ont l'impression d'être des femmes libres, en fait, elles sont totalement esclaves d'un mode de pensée qui a été véhiculé, non pas par des femmes, mais par des hommes. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, le point positif, alors, c'est de vous rappeler votre mission en tant que femme, spécialement comprendre la relation qui vous unit à Dieu et le pourquoi. Vous êtes plus spirituel que l'homme par nature, vous êtes plus pieuse que l'homme par nature, et ceci parce que votre rôle, c'est de transmettre cette vie spirituelle aux générations à venir. Et pour pouvoir transmettre cela, eh bien, il est important que vous soyez proche de vos enfants, spécialement lorsqu'ils sont en bas âge. Maintenant, après, encore une fois, il y a des circonstances pratiques qui font que ce n'est pas possible. Mais moi, je vous donne les grandes lignes. Après, c'est à vous de voir, sur le plan individuel, ce que vous pouvez faire. Et donc, en conclusion, comme disait Léon Blois, plus une femme est sainte, plus elle est femme. Donc ne croyez pas que la religion vous étouffera, vous enfermera dans un carcan et vous rendra moins femme. Pas du tout, au contraire. Plus une femme est sainte, plus elle est femme. Et pour vous épanouir alors en tant que femme, eh bien, il faut apprendre à trouver votre bonheur chez vous, avec votre mari, avec vos enfants, avec tel voisin. Bon. Et pour cela, essayez de voir toujours les choses positives, voir le côté positif des choses. Dans toute réalité, il y a du positif et du négatif. Donc ne pas se concentrer sur le négatif. Voilà, ne pas se comparer aux autres, pour ne pas comparer les avantages des autres avec vos inconvénients, parce que sinon vous allez estimer que vous êtes vraiment bien malheureuse. Mais accepter ben, la part que le bon Dieu vous a faite. Et aussi trouver son bonheur dans l'instant présent. Donc ne pas revenir sur le passé, oh, c'était le bon temps. En général, c'est les personnes âgées. Ne pas trop rêver de l'avenir, bon, ça c'est plutôt les jeunes, ah, plus tard. Donc, essayez de bien vivre l'instant présent. Donc, Dieu est dans le présent. C'est encore le pape Pie XII. Pape Pie XII était un fin psychologue. Hein. Il était, vous pouvez bien lire les textes de pape Pie XII. Ils sont vraiment très, très bien. C'est sur les écueils. Bon, ça dépend beaucoup des femmes. Certaines d'entre elles se laissent piéger par les romans. Et en parlant des romans, après, c'est à vous de faire les applications par rapport à la télévision, au film, tout ça. Ce que le pape Pie XII disait au sujet des romans. C'est une allocution qu'il donnait à de jeunes époux le 18 novembre 1942. Ceci pour ne pas que vous perdiez les grâces de la retraite. Que vous ayez des divertissements, c'est indispensable. Ça, je ne l'ai pas dit, je ne peux pas tout vous dire. Hein. C'est indispensable de se distraire. Maintenant, il faut savoir choisir les divertissements en fonction de sa nature, en fonction des circonstances du genre de vie que vous avez. Mais il y a des distractions qui peuvent parfois nuire au bien de l'âme. Et donc à vous de voir si les distractions que vous avez, d'une façon ordinaire, ne nuisent pas à votre vie spirituelle. Et en particulier, là, le pape Pie XII parlait des dangers des romans. Il disait « D'une excessive liberté dans les spectacles et les divertissements, à un relâchement d'esprit et de conscience dans les lectures, il n'y a qu'un pas. » Donc, excessive liberté. Donc, une liberté, c'est bon, mais il ne faut pas que ce soit excessif. Ici, outre les attraits que nous venons de relever, entre en scène un appât plus subtil encore. L'amour tel que le décrivent les romans, cet amour qui semble si bien rendre les sentiments légitimes, certes, qu'éprouvent l'un pour l'autre les époux, le romancier, ses héros et ses héroïnes, disent avec tant de vivacité, en des phrases si ferventes et si raffinées, ce qui, même dans les entretiens les plus confidents, ne saurait ou n'oserait s'exprimer avec pareille efficacité et avec la même flamme. Ils enlèvent à la mutuelle affection des époux quelque chose de sa pureté, de sa noblesse, de sa sainteté. Donc en lisant des romans, vous allez être transformé dans un univers qui va vous faire rêver. Et la capacité que vous avez de vous identifier au héros fera qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, la vie va vous paraître un peu terne, un peu fade. Et du coup, vous risquez un jour de vouloir reproduire dans la vie ce que vous aurez vu dans les romans. Et en ce moment-là, bien sûr, ça devient très grave. Il y a des dérapages ensuite qui peuvent se produire. Et c'est la raison pour laquelle la lecture des romans peut être dangereuse, spécialement pour les femmes. En raison de cette facilité que vous avez à vous identifier au héros et à laisser la folle du logis partir un peu dans tous les sens. Ces récits tour à tour d'infidélité, de faute, de passion illégitime ou violente, il n'est pas rare qu'ils enlèvent donc à la mutuelle affection des époux quelque chose de sa pureté, de sa noblesse, de sa sainteté. Lors même qu'il n'aurait rien d'immoral ou de scandaleux, le fait de se nourrir habituellement de lectures et de spectacles romanesques établit la sensibilité, le cœur et l'imagination dans une atmosphère de fantaisie, dans un climat étranger à la vie réelle. Épisodes romanesques, aventures sentimentales, vie galante, facile, commode, capricieuse, brillante, qu'est-ce que tout cela sinon des inventions fantaisistes d'auteurs qui ne surveillent point leurs talents, ne se soucient nullement des difficultés économiques et ne se gênent pas de mettre leurs œuvres en contradiction sur d'innombrables points avec la réalité pratique et concrète. L'abus de pareilles lectures et de pareils spectacles, quand même pris en particulier et ne serait pas répréhensible, finit par fausser le jugement et par tuer le goût de la vie réelle. Il ôte aux époux cette sagesse que développe en eux une vie délicieusement austère de travail, de sacrifice et d'attentive vigilance parmi les soucis d'une famille saine et nombreuse. Donc il faut savoir que la vie catholique est faite d'amour, mais est faite aussi d'une certaine austérité, de croix. Et chaque fois qu'on lit ce genre de roman, eh bien, on a l'aspect positif sans la contrepartie. Et donc, bien sûr que vouloir avoir l'amour sans sacrifice, c'est rêver, quoi. Mais c'est trop rêvé, parce que c'est pas la vie réelle. Donc, ma conclusion, eh bien, essayer de méditer tout cela et de voir de quelle manière prendre des résolutions afin qu'à la fin de cette retraite, vous soyez toujours plus femme et surtout plus sainte. Bien, on va s'en rendre à la chapelle.